Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Midi et des Poussières sur Radio Barthas. Nous sommes en direct depuis notre studio Floracois via les ondes FM fréquence 107 ou via radiobarthas.net. Aujourd'hui, 15 janvier 2026, nous allons célébrer deux anniversaires d'importance dans cette émission, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, on commence tout de suite pour annoncer un événement très attendu. Peut-être avez-vous déjà vu l'affiche qui s'expose sur les murs de Florac et alentour depuis quelques jours. Peut-être avez-vous entendu rumeurs et chuchotements sur l'arrivée imminente dans les rues de la ville de figurines de toutes sortes, cartes multiples et magiques, Kapla et puzzle, Tetris, Go, Scrabble ou Bridge. Peut-être vous êtes-vous fait doubler par Mario et Luigi sur la 106. Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs, voici presque venu le week-end du Floracopoli. Pardon, j'ai pas pu résister de mettre une petite musique de Mario Kart pour accueillir mes invités aujourd'hui. C'est Marc et Léo. Salut à vous deux. Ah, pardon, j'avais oublié d'ouvrir vos micros. Ouais. On recommence. Salut Marc.
Salut.
Salut Léo. Léo, t'as changé de place là.
Ça fait tout bizarre. Ouais. Mais en même temps, ça offre une nouvelle vision sur les choses.
Alors, vous êtes venus ici parce que vous êtes tous les deux membres du CA de Floracopoli. Donc, vous allez un peu nous présenter les festivités qui commencent très bientôt, dans deux semaines, le 31 janvier. Est-ce que vous êtes prêts?
Personne n'est jamais prêt pour quand on organise un festival ou un grand événement comme ça. On est prêt peut-être 5 minutes avant et encore c'est même pas sûr.
Il y a toujours des trucs à faire.
Là, je mentionnais l'affiche dans la petite introduction. Elle est géniale cette affiche. Est-ce que vous pourriez la décrire pour ceux de nos auditrices auditeurs qui l'ont pas encore vue?
Déjà cette année c'est une affiche un peu spéciale parce qu'elle a été faite par Johnny Guettet, un membre de l'association. On y voit un âne, mais qu'est-ce qui fait cet âne, Marc?
Ah, c'est un âne, mais moi j'étais convaincue que c'était un cheval, dis donc.
Non, mais c'est un âne un peu balèze. Okay.
C'est références Evenol.
Et oui. Et en fait, c'est un âne qui joue aux échecs et qui vient de nous mettre mat, en gros.
Ok. Mais oui. Donc il est assez fier de lui, non? Il a un air assez content.
Exactement. Mais bon, il nous invite quand même à en refaire une, donc c'est assez sympathique. Et puis, en gros, sur toute cette affiche, aussi pas mal de petites références. Que ce soit à Florac, avec, on voit le Rochefort en arrière-plan, le pont de fer. Et puis, il y a quelques références aussi à des jeux de société, comme le Petit Chat qui pense. C'est un jeu qui s'appelle Nekojima, qui aura notamment Floracopoli, un jeu d'adresse très sympathique. Puis, il y a la plante de Mario. Et il y a même aussi, dans les pions du jeu d'échecs, il y a un petit mouton qui remplace le cheval. Mouton qui fait référence, en fait, à l'année de l'agropastoralisme, donc ça on en parlera aussi tout à l'heure, mais là, cette année on a un lieu d'exception, donc qui est l'Entente.
On les a reçus d'ailleurs mardi dans Midi et des Poussières pour annoncer cette année 2026, année internationale du pastoralisme. Et alors le Floracopoli, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, nous présenter un peu cet événement, peut-être faire aussi un peu l'historique, quand est-ce qu'il a commencé? Je ne sais pas qui veut se lancer, Léo.
Ah, déjà, Floracopoli, aujourd'hui, c'est un peu ambigu parce que depuis cette année, on s'est constitué association. Et du coup, on a pris le nom pour l'association Floracopoli. Donc, ce n'est plus seulement un festival maintenant, c'est aussi une association qui fait des événements à l'année, des soirées de jeux et plein d'autres qui vont arriver le temps qu'on s'organise bien comme il faut.
Et donc, avant que ce soit une association, c'était simplement un collectif de gens passionnés par les jeux qui avaient envie d'organiser des choses autour de ça.
Et c'était, en gros, c'était chapeauté par l'association des amis de la bibliothèque. C'est à partir de cette association-là, on était quelques ludopathes à l'intérieur, à se vouloir lancer dans l'aventure du festival. Et donc, durant les trois premières éditions, c'est les amis de la bibliothèque, en gros, qui a chapeauté l'organisation du festival.
Et donc là, pour cette quatrième édition, c'est donc l'association, toute nouvelle association Flora Coppoli. Et donc, ça fonctionne avec que des bénévoles, en fait, cet asso.
Exactement, ouais.
Et donc, il y a combien de bénévoles qui s'impliquent ?
On va faire une pyramide. On a le CA qui, on est 5 à administrer l'association. Après, dans les différentes commissions, par exemple pour le festival, on va se retrouver à plus une vingtaine, 15-20.
Ouais.
Et si on prend tous les bénévoles qui vont agir le long de l'année, pendant le festival, sur les événements, sur le machin, on peut monter facilement une 50-60 peut-être. Ouais.
Et est-ce que là, vous êtes encore à la recherche de bénévoles pour cette quatrième édition ?
Alors
on lance un appel à tous les auditeurs auditrices de Radio Bartas. Qu'est-ce que vous cherchez comme talent ?
On a déjà, je crois, pas mal de monde pour tout ce qui va être animation. Ce qu'on va surtout rechercher aujourd'hui, ça va être de l'aide sur tout ce qui va être buvette.
Tout ce qui est buvette, ouais. À l'accueil aussi, hein, des gens qui aiment bien accueillir les gens et leur expliquer ce qu'il y aura à faire durant le festival. Alors, il y a tout un programme on a un livret des animations très complet et tout pour faciliter la chose. Et sinon, on recherche toujours aussi un co-responsable buvette. Ouais, on a quelques pistes, mais on aimerait bien quand même continuer l'ouverture. Et donc voilà, si vous êtes motivé à être... Voilà, le rôle du co-responsable buvette, c'est surtout pouvoir gérer des pépins au moment où ils sont là. Mm-hmm. Et on a un responsable qui s'est déjà occupé de pas mal de choses, mais qui va être pas mal occupé durant le festival à faire autre chose aussi. Et donc, il faut pouvoir le supplier, quoi.
Et alors, le but de ce festival, c'est de jouer, de se rencontrer. Comment est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que vous cherchez à créer ici à Florac avec ce festival ?
C'est un festival gratuit et ouvert à tous. On a envie de créer, c'est aussi l'envie depuis plusieurs années de créer un festival par les locaux, pour les locaux, juste pour permettre de se re-rencontrer, de profiter de ça l'hiver entre nous. Ça réchauffe un peu l'hiver. Quand tout est fermé, c'est un peu le moment pour nous de se re-rencontrer à nouveau. Et tout le monde est invité, tout le monde est le bienvenu. Et on s'entend tous autour d'un jeu en général.
Et donc tu dis locaux, c'est évidemment pas que Florac, c'est Florac alentour, on va dire peut-être Sud-Lozère, voire même plus loin, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent d'un peu partout. Ouais.
Ouais. Alors, au niveau des intervenants, en effet, il y a notamment toute l'équipe qui va s'occuper de la section jeux vidéo Metapixel qui viennent de...
Chanac ?
Chanac, c'est les jeux de figurines.
Chirac.
Chirac, voilà.
On peut refaire la carte de la Lozère en fonction des types de jeux qui sont pratiqués.
Et puis, on a notamment l'association de jeux, la Reine des Jeux, qui vient d'Alès, qui vient en nombre pour animer des tables de jeux, mais aussi pour animer du jeu de rôle et notamment les hantises. Donc,
les fameux hantises qui sonnent très mystérieux quand on lit votre programme.
C'est parce que c'est très mystérieux.
On reviendra après sur les différents types de jeux que vous proposez. Mais voilà, vous citiez donc plein d'associations partenaires. Alors, il n'y a pas que des associations ludophiles ou ludopathes, comme tu disais, Marc. Il y a aussi des partenaires qui ne travaillent pas forcément autour du jeu, mais qui viennent participer au festival et qui utilisent du coup le jeu comme un moyen aussi de communiquer sur leurs actions, leurs activités.
C'est un truc qu'on voit monter depuis un grand moment. C'est les escape games comme méthode d'apprentissage. J'ai plus le mot exact que j'avais l'autre jour quand je l'ai ressorti. Mais du coup, on a aujourd'hui le réel et pas mal d'instituts, l'Entente, le Parc National, ouais, qui créent des escape games pour faire passer des messages et pour sensibiliser les gens à des sujets. Et du coup, on peut les retrouver au Flora Coppoli. On a l'Entente qui nous propose son escape flash à Cossé Cévennes, le parc qui s'associe avec un autre parc national pour nous faire un escape game aussi qui s'appelle La Gardienne de la Nuit. Et j'en ai oublié un, le réel, qui revient avec son fameux sauf qui peut autour des perturbateurs endocriniens.
Ouais. Et puis, pour continuer, il y a aussi du coup Comment il s'appelle encore ? Ah, j'ai oublié. Désolé.
Ils ont le nez Terre dans, de le, Lien, dans voilà. le programme.
Terre de Lien qui vient aussi présenter un jeu de rôle sur, qui s'appelle le Foncijeu, qui est un jeu de rôle donc, sur la
propriété foncière.
La propriété foncière, oui.
Mm-hmm. On en parlera d'ailleurs parce que je vais interviewer Lise de Terre de Liens très prochainement. Ok, donc là vous en avez cité certains des jeux. Peut-être un peu pour résumer, il y a quand même différentes catégories. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts, hein, qu'on aime les jeux de vidéo, les jeux de rôle, les jeux de cartes. Comment est-ce que voilà, vous avez classé tout ça, vous avez organisé ça par lieu, par jour. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver ? Parce qu'il y a beaucoup de choses.
Mais on est déjà très content d'avoir autant de lieux à disposition, c'est-à-dire que le GEM nous ouvre ses portes, l'Encrier nous ouvre ses portes, plein de gens nous ouvrent leurs portes, ce qui nous permet, nous, dans certains lieux, de spécialiser le lieu dans jeux de figurines, jeux vidéo, jeux classiques. On a des lieux un peu spécialisés pour retrouver... parce que ce qu'on voit dans le programme à première vue, c'est pas tout ce qu'il y a dans le festival. À côté de ça, on aura des lieux spécifiques où il y aura plein de jeux à disposition que les gens pourront prendre, jouer, s'amuser avec.
Un peu
ça,
en libre service.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ce qu'on voit en premier dans le programme, c'est surtout les activités qui sont extérieures et animées par des personnes bénévoles.
Ouais, il est très bien fait le programme parce que donc il y a une carte avec un code couleur pour se retrouver dans les différents lieux. Donc il y a la salle des fêtes, bibliothèque, foyer rural, l'embuscaf, tu l'as dit, le GEM, l'Encrier. Où est-ce qu'on peut trouver le programme ? Donc sur internet, sur votre site, mais il est mis à disposition aussi à Florac en format papier.
Très bientôt, on très l'espère bientôt. Très bientôt.
Okay. Oui, on va le mettre à disposition dans les différents commerces.
Je pense dès la semaine prochaine, ouais. Deux semaines avant le festival.
Si tout va bien, ouais, la semaine prochaine, c'est dedans.
Et alors, est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire à l'avance aux activités ?
Alors, la plupart.
Ouais, pour la plupart, oui. Après, voilà, nous, ce qu'on aime faire aussi, c'est donc on peut s'inscrire sur le site internet hein, directement, mais on laisse toujours disponible quelques places durant le week-end du festival pour ceux qui voudraient s'inscrire directement sur place.
Ok. Et donc, vous pouvez rappeler l'adresse de votre site internet ?
Oui, c'est floracopoli.fr.
Floracopoli, donc avec Y à la fin, évidemment. Et alors, vous, est-ce que vous avez vraiment une activité, un jeu qui s'annonce, auquel vous trépignez un peu d'impatience pour y participer, l'un et l'autre ?
J'en ai deux, trois. Bon, déjà, j'en organise un. Ah. Une murder party, c'est-à-dire il y a eu un meurtre dans Florac et on doit trouver qui a commis le meurtre.
Un cluedo géant.
Un genre de cluedo en grandeur nature. Ouais. Et du coup, sur la mort de notre fameuse Gertrude bien-aimée, qui était l'oie blanche de Florac, qui a disparu l'an dernier.
Mais oui, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire sa connaissance. Je suis arrivée après son décès.
Donc celle-là, bon, c'est toujours pas fini, mais on est en train de l'écrire et d'organiser ça. Ça va être sûrement un joli truc. Antise, moi, c'est un jeu j'ai très envie de tester. À chaque fois que je le revois,
Ouais, moi aussi, ça m'a beaucoup
un peu jeu d'ambiance horreur qui va se jouer dans le noir, dans le tribunal.
Ok.
Alors moi, je l'ai déjà fait.
Vas-y, raconte-nous. Donne-nous envie.
C'était à Linck, près du cimetière. En gros, c'est un petit jeu de rôle, hein, c'est grandeur nature, où va y avoir des possédés et d'autres personnes qui vont être là pour déposséder les possédés, en gros, avec des petites mécaniques qui vont faire croire, des petites mécaniques qui vont, par exemple, t'as des possédés qui sont bloqués sur quelque chose. Donc, en fait, le possédé va à chaque fois créer une ambiance particulière parce qu'il va faire quelque chose d'assez anormal, mais d'assez effrayant. Donc, il faut pouvoir se mettre dans le rôle de ce personnage aussi.
Ouais, un peu comme un possédé par un esprit maléfique, quoi, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Okay. Ouais, ouais.
Il faut être un peu comédien, alors, quand même.
Un peu comédien, mais je pense que le maître du jeu, celui qui va animer ça, c'est quelqu'un qui est habitué de mettre ce genre de mettre les personnages dans l'ambiance. Et je pense que ça va être très très bien. Et puis le fait de faire ça au tribunal aussi, c'est dans le noir.
Dans le noir. Super, et ben on a hâte de toutes ces activités. Donc le Floracopoli, 31 janvier et 1er février 2026, c'est la 4e édition. Et voilà, les jeux vont envahir la ville pendant ces 2 jours. Merci beaucoup Léo et Marc d'être venus nous en parler.
Merci à toi Raphaël.
Ben oui, merci.
et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Ouais, je suis un peu mou.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, je crois que j'ai parlé pendant la musique. On écoutait à l'instant la bande originale, un extrait de la bande originale du jeu vidéo Zelda dans sa version Nintendo, en l'honneur du Floracopoli et de tous ces jeux. Un morceau que je trouve vraiment très beau et très émouvant.
Midi et des poussières.
Et je voulais annoncer en début d'émission, aujourd'hui nous célébrons deux anniversaires et le premier est très joyeux, c'est l'anniversaire de Wikipédia. Il y a tout juste 25 ans, le 15 janvier 2001, Larry Sanger et Jimmy Wales lançaient officiellement Wikipédia, encyclopédie en ligne collaborative et multilingue qui fonctionne sur le principe du wiki. Alors un wiki, c'est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Et ça vient du mot hawaïen, wiki-wiki, qui veut dire rapide. Alors Wikipédia est devenu en quelques années l'un des sites internet les plus visités au monde et se maintient aujourd'hui, d'après des chiffres de 2025, dans les 10 premiers sites donc les plus visités au monde. Derrière ChatGPT, certes, mais bon, ChatGPT utilise Wikipédia. Si à ses débuts, Wikipédia était très critiqué et à ne surtout pas considérer comme une source sérieuse, je me souviens de mes profs au collège et au lycée au milieu des années 2000 qui nous interdisait de s'appuyer sur Wikipédia, eh bien elle est aujourd'hui consultée plus de 15 milliards de fois par mois à travers le monde, soit environ 6000 fois par seconde, et elle est considérée comme une des sources les plus sûres du web, car il est en réalité assez difficile d'y publier des fausses informations. Elles seront rapidement modifiées ou supprimées par l'immense communauté de contributrices et de contributeurs qui veillent. Ils sont plus de 250 000 à contribuer à Wikipédia chaque mois, et en France, on compte compte presque 37 000 contributeurs actifs. Alors, j'ai voulu échanger avec des contributeurs français et je me suis dit que ce serait encore mieux de trouver des contributeurs lausériens. Alors, j'ai cherché, devinez où ? Eh bien, sur Wikipédia, bien sûr, en allant voir qui avait participé aux rédactions des pages sur la Lozère et le Gévaudan. Et je suis tombée sur un certain Iskander, c'est son pseudo de contributeur. Il s'appelle Alexandre dans la vie civile et il vit dans le village de Prunières, entre Saint-Chély-d'Apché et le Malzieu. On a échangé par téléphone, il nous explique son rôle de contributeur et nous partage ce qu'il souhaite à Wikipédia pour ses 25 ans. Bonjour, Alexandre.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes contributeur sur Wikipédia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire d'être contributeur Wikipédia ?
Contributeur Wikipédia, c'est participer à une encyclopédie universelle, libre, ouverte, où chacun peut participer, mais où il y a quand même des garde-fous et où on ne peut pas écrire n'importe quoi. C'est l'intérêt justement de cette encyclopédie où... ces garde-fous, justement, nous permettent d'éviter ou des erreurs ou des partis pris. Ce qui arrive, mais souvent, c'est vite corrigé.
Et alors, ça fait combien de temps que vous avez commencé, vous, à contribuer sur l'encyclopédie ?
Alors, à contribuer sur l'encyclopédie, j'ai commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, environ. J'ai constaté que la fiche Wikipédia, justement, de mon village, était assez succincte et j'ai souhaité la compléter dans la mesure où le patrimoine architectural, tous les édifices, tous les édicules sur la commune sont assez nombreux, donc ça nécessitait une fiche un peu plus complète. Ma participation a surtout été au niveau de l'église Saint-Caprais, des illustrations, d'une demande à des collaborateurs de créer un blason également, et d'autres éléments, hydrographie, les routes et autres.
Donc vous avez contribué donc à la fiche de votre village de Prunières, mais vous faites aussi partie des contributeurs de ce qui s'appelle sur Wikipédia le projet Lozère et Gévaudan, dont l'objectif est de favoriser le développement des articles donc sur le département de la Lozère et de son ancêtre le Gévaudan.
Tout à fait.
Et donc sur cette page à laquelle on peut accéder sur Wikipédia, il y a tout un tas de rubriques, donc il y a une liste des choses à faire. Il y a une liste de suivi, la liste des articles récents et il y a la liste aussi des contributeurs. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu rentrer en contact avec vous. Mais ça, on a l'impression qu'on est un peu dans l'envers du décor de Wikipédia, en fait, quand on est sur une page de projet tel que le projet Lozère et Gévaudan.
Voilà, en fait, c'est l'envers du décor, si vous voulez, c'est l'ossature. C'est l'ossature du projet. Ce que voient les lecteurs qui ne participent pas, ce sont les articles. Mais si vous voulez, derrière, il y a toute une ossature et tout un projet. Lozère Gévaudan, comme il y a d'autres projets, d'autres thématiques assez générales. Et c'est vrai que le but est de faire des articles assez complets. Je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a différents articles qui sont quand même classés après au niveau mondial. Alors, c'est qualité or, qualité argent et compagnie. Et
oui, parce que les articles sont classés en fonction de leur qualité, c'est-à-dire à quel point ils sont fournis, à quel point ils sont bien référencés, à quel point ils soutiennent leur source.
Exactement, que le contenu est fiable, et surtout fiable, a été vérifié par d'autres contributeurs. C'est aussi ça qui est important, parce qu'on peut avoir un article très 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 fourni, mais assez bancal et peu vérifié, de ce fait, il sera très mal noté, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, le but, c'est d'avoir des articles quand même assez complets, des illustrations aussi assez récentes. C'est parfois aussi problématique, parce que on essaye de faire des illustrations autant que faire se peut. C'est délicat d'aller en chercher sur Internet, c'est une question de droit après. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quelle illustration. Donc, quand les gens sont sur place, ils font des illustrations comme ça. C'est très bien pour les projets et c'est parfait pour compléter les articles.
Et est-ce que vous avez rencontré en personne d'autres contributeurs au projet Lozère et Gévaudan ?
Alors oui, notamment un sur ma commune qui a participé à corriger les articles, certains éléments que j'ai pu ajouter par la suite, à les affiner. Sinon, c'est beaucoup. Par le chat interne de Wikipédia. On est un petit peu partout, on est un petit peu éclaté.
Oui, on imagine qu'il n'y a pas que des Lozériens qui ont vocation à écrire sur la Lozère. Et alors, qu'est-ce que symbolise pour vous Wikipédia ? J'imagine que vous tenez beaucoup à cette encyclopédie. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à Wikipédia pour ces 25 ans ?
Je tiens énormément à Wikipédia, c'est quand même une base de connaissances énorme. Je souhaite surtout qu'elle continue, que ça continue de la même manière, c'est-à-dire que ça soit libre, que ça soit ouvert à tous, et toujours avec les mêmes garde-fous, mais qu'elle continue, qu'on reparte encore sur 25 ans minimum.
Eh ben merci beaucoup Alexandre de nous avoir partagé votre expérience de, comment on dit, wikipédien, wikipédiste ?
On dit un peu ce qu'on veut.
Contributeur Wikipédia.
Contributeur, c'est mieux.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous, une bonne journée.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Vous êtes bien sur Radio Bartas. On poursuit notre célébration des 25 ans de Wikipédia aujourd'hui avec le témoignage d'une autre contributrice, Sinkra. Alors, elle n'est pas tout à fait lausérienne, mais on reste dans la région Occitanie puisqu'elle vit à Toulouse. Alors, Sinkra, elle est la présidente du projet formidable d'intelligence et de nécessité. C'est le projet des 100 pages, 100 S-A-N-S, qui vise à lutter contre les déséquilibres de genre dans la version française de l'encyclopédie. Mais elle va nous expliquer tout ça bien mieux que moi. Alors, voilà, juste je vous dis que la liaison téléphonique n'était pas toujours au top, donc tendez l'oreille.
Le projet des 100 pages, il est né d'abord d'une envie d'une contributrice, donc Natacha, parce qu'en fait, sur Wikipédia, il faut savoir qu'on a les chiffres à partir de 2014, entre 2014 et 2016, on était à peu près à 14% de biographies de femmes, c'est-à-dire que 51% de l'humanité était représenté par 14% de biographies. Et au-delà de ce chiffre, qui est un peu quelque chose de quantitatif, même les articles qui parlaient de femmes, par exemple, on parlait de George Sand uniquement à travers les hommes qui ont parcouru sa vie. George Sand, qui est quand même l'une des plus grandes écrivaines françaises. Enfin, voilà. Donc, il y avait quand même un gros enjeu là-dessus. Beaucoup de biographies de femmes étaient avec des choses qui étaient du style femme de, mère de, enfin, voilà, des choses par rapport aux hommes qui étaient dans leur vie. J'aime bien cette anecdote parce que j'ai travaillé sur une aviatrice à un moment donné. Et en fait, il parlait de sa robe quand elle est montée pour la première femme qui est montée dans une montgolfière. Et il parlait de comment elle était habillée. Alors, c'est marrant, hein, c'est folklorique, mais c'était une aviatrice qui s'était battue pour pouvoir avoir le droit de monter dans cette montgolfière. Et on est quand même... Enfin, voilà. Il y a la proportion d'informations qu'on met était assez aléatoire. Pas suffisante, d'après nous, à cette époque-là. Alors, je dis nous, mais moi, j'étais pas là à cette époque-là. J'ai rejoint le projet beaucoup plus tard, en 2019. Et du coup, il y a eu cette envie de d'abord recréer un projet sur Wikipédia, puisque Wikipédia, ça fonctionne sous forme de projet, c'est-à-dire qu'on prend une thématique, donc par exemple, vous avez le projet football, vous avez le projet Assemblée nationale, le projet Wikicheese, qui répertorie les fromages artisanaux en France.
Wikicheese.
Et du coup, Wikicheese, ouais. Il est un peu en pause parce qu'ils ont bien défriché le terrain. Mais vous avez aussi un projet musée, enfin voilà, il y a plein de projets, en gros, c'est des thématiques, voilà. Et donc, il a décidé d'être créé le projet des 100 pages. Donc, 100 pages, c'est S-A-N-S, plus loin, page. Parce qu'en fait, c'est inspiré des associations qui sont créées, notamment dans les pays anglo-saxons, qui s'appellent les Women in Red. Parce que quand on fait un lien vers une page vide sur Wikipédia, donc quand la page n'existe pas, le lien est en rouge. Et quand elle existe, il est en bleu. Et donc les Women in Red, c'est toutes ces femmes importantes de l'histoire qui mériteraient d'avoir leur page, mais qui ne l'avaient pas. Et donc là, 100 pages, et c'était aussi un petit jeu de mots sur le 100, le chiffre. Et on a une graphique un peu particulière, qui n'a pas de majuscule et une grande majuscule, parce que c'est en lien avec donc le E est en majuscule, à la fois pour montrer la féminisation qui est importante, mais aussi... en hommage à Bell Hooks, l'autrice afro-américaine, qui du coup a beaucoup écrit sur l'invisibilisation des femmes et notamment des femmes noires.
Et alors, comment est-ce que ça fonctionne, alors, le projet Les 100 pages ? Qui peut contribuer ? Est-ce que chacune contribue de chez soi sur son ordinateur ? Est-ce qu'il y a des rencontres en groupe pour faire donc, ces pages de femmes ensemble ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne ?
Alors, il y a plein de portes d'entrée pour rentrer dans les 100 pages. Il n'y a pas forcément de chemin dédié, balisé, etc. Il n'y a pas besoin de rite d'initiation. Il y a des gens qui contribuent au projet très épisodiquement, qui mettent un article qu'ils ont fait, qui considèrent aller dans les 100 pages. Et puis, il y a des gens qui font tous les articles que Yael rédige sont indexés au projet. Donc, c'est assez aléatoire. Donc, en gros, nous, ce qu'on regarde, c'est ce sont les personnes qui vont indexer leurs articles, c'est-à-dire qu'elles vont mettre dans les articles récents et elles vont mettre dans la page de discussion de l'article que l'article appartient aux 100 pages. Et du coup, ça fait d'elles et de des contributeuristes des 100 pages. Voilà. Après, il y a un sentiment d'appartenance puisqu'on peut rajouter son pseudo à une liste de participants au projet pour être tenu au courant. On a aussi des canaux qui permettent de discuter comme notre page de discussion qui est donc un
forum.
Voilà, exactement comme un forum. On a aussi un canal Telegram qui nous permet des fois de poser des questions si on n'a pas eu trop de réponses sur la page de discussion. On a aussi une newsletter auquel on peut s'abonner. Et donc ça, c'est la partie si vous avez envie de voir personne. C'est-à-dire si vous avez envie d'être derrière votre ordi et de contribuer au projet. Si vous connaissez déjà Wikipédia, ou même si vous ne connaissez pas, parce qu'on a des tutoriels sur comment participer, il y a des endroits où on peut voir comment participer au projet, ça peut être en rajoutant des sources, en corrigeant des fautes d'orthographe, il y a plein de manières différentes. Et si vous avez envie de rencontrer des gens, parce qu'il faut savoir qu'on est particulièrement connus pour notre accueil et notre formation, parce que ça nous tient énormément à cœur de perpétuer ça, parce que Wikipédia, ça peut être un peu hostile quand on est nouveau, nouvelle, qu'on ne connaît pas très bien les règles, il y a beaucoup de choses à appréhender, comprendre, etc. Et donc, on conseille pour les personnes qui se sentent à l'aise avec le fait de nous rencontrer, de venir à nos ateliers en présentiel. Et pour ça, on a différents formats. On a des formats événementiels avec les institutions culturelles principalement, comme par exemple, on a fait avec l'Institut Pasteur, on a fait une formation l'année dernière. C'est ce qu'on appelle des éditatons. Et il y en a très, très régulièrement un peu partout en France. On a un agenda avec les différentes villes qui sont notées, les liens d'inscription.
Vous pouvez redire le nom des éditatons.
Éditatons. Édite comme éditer en anglais et aton comme marathon. Par exemple, tous les ans, en mars, on en fait un à la bibliothèque de Limoges. On en a fait beaucoup avec les musées de Toulouse. Après, on a des permanences mensuelles ou hebdomadaires dans différentes villes en France et en Suisse pour le moment. Et on espère bientôt au Canada, à Montréal. Et donc, il y en a eu à Toulouse, à Strasbourg, à Paris, à Genève et à Lausanne pour l'instant.
Et à Toulouse, par exemple, ça a lieu chaque semaine dans un café de la ville, c'est ça ?
Chaque mois.
Chaque
mois, on fait la Gougnotte, qui est un lieu LGBTQIA+, qui nous accueille très gentiment. Et donc, du coup, on a une partie formation pour les nouvelles qui arrivent et après, une partie contribution, où on contribue joyeusement autour d'un verre, un café, un thé, etc. Contribuer sur Wikipédia, ça peut être un peu difficile si on n'a pas la connaissance de comment chercher des sources et sur quoi s'appuyer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des critères d'admissibilité qui permettent de décider si une page est admissible ou pas, donc si on a le droit de la créer sur Wikipédia. Et ces critères d'admissibilité, ils se fondent sur des sources dans la presse à au moins 24 mois d'écart, centrées sur la personne qui ne sont pas des interviews. Donc c'est assez spécifique, et ou une entrée dans un dictionnaire et ou un ouvrage sur la personne. Donc, quand on a des ouvrages sur la personne, ça permet de fait de rendre la personne admissible. Et donc, c'est plus facile pour les nouveaux et nouvelles de contribuer avec ça. Mais du coup, la formation, ça consiste à expliquer toutes ces subtilités, à accompagner les personnes dans leur première édition. Moi, j'apprécie vraiment quand j'arrive à ce que les personnes se sentent suffisamment à l'aise pour appuyer sur publier à la fin de leur première formation. Parce que Wikipédia, ça peut paraître impressionnant, mais en fait, c'est très collaboratif, et il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et peut-être qu'on va faire mal et que des gens vont nous dire « Alors, en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas grave, en fait. » Et d'ailleurs, nous, notre objectif, là, puisque Wikipédia a 25 ans, mais nous, on a 10 ans cette année, c'est de continuer à essaimer un peu ces permanences mensuelles et qu'il y ait d'autres villes. On a vraiment envie que les gens nous rejoignent au niveau de l'association, parce que c'est aussi intéressant, et au niveau du projet. Voilà.
Et bah donc, on lance un appel aux auditeurs, aux auditrices de Radio Bartas. S'ils veulent ouvrir un projet avec les 100 pages à Florac, c'est possible. Et sinon, Toulouse, c'est un peu loin, mais pourquoi pas venir participer une fois par mois à vos ateliers formation. Le prochain, ce sera quand ?
Ça sera le 8 février. Et on peut prendre... Alors, on a un système de prise en charge pour justement un peu pallier au fait qu'on n'est pas partout. Des transports des personnes qui aimeraient venir. C'est tout expliqué sur notre page de projet. Voilà.
Sur la page projet, donc sur Wikipédia, les 100 pages. Et alors, Sinkra, on sent que vous avez vraiment un attachement à Wikipédia. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette structure et qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à Wikipédia pour ces 25 ans ?
De rester humaine. Moi, j'aime Wikipédia parce que c'est un projet qui me dépasse et qui rassemble des milliers de gens sur cette planète et qui contribue ensemble ou même juste la Wikipédia francophone. Donc j'aime la communauté, j'aime l'aspect humain de se rencontrer. Pour te dire, j'ai même rencontré mon mari, non pas sur Wikipédia, mais dans les projets associés à Wikipédia. Donc vraiment pour moi, ça, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et c'est hyper important pour moi cet aspect humain, vu que l'IA se développe un peu partout et que je pense que ça n'a pas cette qualité encore de travail, de compréhension, d'humanisation derrière. Surtout quand on fait des biographies ou ce genre de choses, ça peut être facile de se laisser aller dans la biographie CV, mais en fait, pas du tout. Moi, quand je fais une biographie, je passe des heures à chercher, à ouvrir plein d'onglets et à chercher un peu tout ce qui a été fait, dit sur la personne. Je vais faire des recherches sur les archives de la BNF. Enfin, voilà. Nous, on souhaite vraiment... On fait partie de ce qu'on appelle le mouvement du libre, de la connaissance libre, et du coup on tient énormément à la fois au respect du droit d'auteur, basiquement, mais aussi au partage et à la connaissance, parce qu'on donne beaucoup de notre temps et de notre énergie à un projet, et en fait l'appropriation par des multinationales de ce travail, c'est quelque chose qui nous enthousiasme pas des masses. Donc voilà, je souhaite à Wikipédia de continuer d'être à visage humain et accessible à tout le monde, de ne pas se refermer sur elle-même, et au contraire, de continuer à s'ouvrir et à convaincre des personnes de contribuer et d'apporter leur savoir et leurs connaissances. Et du coup, je souhaite aussi à Wikipédia de se diversifier, d'accueillir de plus en plus de personnes qui viennent de différents milieux socio-économiques, culturels, de faire plus de place aux personnes handicapées, aux personnes racisées, aux femmes, aux personnes non-binaires et trans, enfin voilà, d'arriver à les intégrer et à les embarquer aussi. Et c'est un peu ce qu'on fait aux 100 pages. Et donc, voilà, on le souhaite de tout cœur à Wikipédia.
Merci beaucoup à Sinkra et au projet des 100 pages qui ont bien voulu prendre le temps de nous raconter toutes les super choses qu'elles et ils font. Vous pouvez les suivre sur Instagram et sur Mastodon. Elles sont très actives et publient plein de contenus intéressants. Je rappelle l'orthographe, les 100 pages, 100 S-A-N-S et pages avec le E en majuscule. Et je tiens à dire que ni le Floracopoli ni Radio Bartas n'ont de page sur Wikipédia pour l'instant. Donc si des contributeurs lozériens nous écoutent, allez-y, il est temps d'y remédier. Et puis tout un chacun peut s'y mettre, hein, vous l'avez entendu, c'est pas si compliqué de débuter une carrière de Wikipédien, Wikipédiste, contributeur Wikipédia.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et c'est un autre anniversaire qu'on célèbre aujourd'hui, bien plus triste malheureusement, c'est celui du décès de David Lynch qui est survenu le 16 janvier 2025, il y a tout juste un an. David Lynch, réalisateur de chefs-d'œuvre comme Elephant Man, Blue Velvet, Mulholland Drive, sans oublier la mythique et extraordinaire série Twin Peaks qui a révolutionné la télé au début des années 90. Et pour lui rendre hommage, Victor. Salut Victor.
Bonjour.
Victor, de Midi moins Disque, que vous connaissez de par ses activités de cuisinier, DJ, sélecta de vinyle à la pompe et qui est avec nous en studio tous les jeudis. Victor, tu as commencé un pré-hommage déjà jeudi dernier à David Lynch et donc tu poursuis aujourd'hui.
Oui, alors la semaine dernière, on a fait un hommage un peu indirect en passant Roy Orbison, un morceau de Roy Orbison qu'il n'a jamais passé dans aucun de ses films et qui traduit juste une ambiance. Et là, ben, on va écouter un morceau, enfin, une composition qui circule en fait dans toute la série Twin Peaks, qui revient régulièrement et que moi j'aime bien appeler composition de couloir ou jazz un peu d'interlude ou intermédiaire. Qui sur l'album de la bande originale s'appelle Dance of the Dream Man et qui a été composé entièrement par Angelo Badalamenti et là pour le coup pas avec David Lynch, là c'est vraiment Badalamenti qui a composé ces morceaux là qui en fait se déclinent au fur et à mesure de la série fonction de ce qui se passe, mais c'est souvent dans l'hôtel en fait qu'il y a ces morceaux là. C'est très velours en fait, ça fait vraiment penser au velours qui revient vraiment très fréquemment dans les œuvres de David Lynch et cette ambiance cabaret que moi j'aime vraiment bien, cabaret mystérieuse, enfumée. Et donc là ce morceau c'est vraiment ça.
Ok, bah on l'écoute tout de suite, donc je précise qu'on l'écoute sur vinyle évidemment. C'était bien terminé, Victor, le morceau.
Ouais, oui.
Dance of the Dream Man, donc de Angelo Badalamenti sur la bande originale de Twin Peaks. On a le vinyle avec nous là. C'était ton cadeau de Noël, tu viens de me dire, Victor.
Ouais. Ça a été, oui, c'en est un que j'ai eu à Noël. Et je suis content parce que écouter les morceaux les uns après les autres, la plupart du temps, ils s'ajoutent à l'image et ça apporte vraiment une dimension supplémentaire à ce qui est vu, à ce qui est joué et tout. Et les écouter individuellement, en dehors des images, ça les fait revenir. Et puis aussi, la composition musicale, elle est vraiment... Elle est assez simple, mais il y a quand même tout un tas d'arrangements vraiment, vraiment chouettes qu'on n'arrive pas trop à entendre dans la série, parce qu'il y a aussi les paroles qui sont par-dessus et tout. Et j'aime vraiment bien cet aspect, ce côté jazz, jazz fumeux, là. J'aime vraiment bien ça. Et du coup, en écoutant l'album, on se rend compte qu'il y a assez peu de morceaux, finalement, qui c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Mais étonnamment, on se lasse pas trop de les réécouter d'un épisode à l'autre.
Et c'est très très marqué. Dès qu'on entend les premières notes, si on a vu la série Twin Peaks, on est immédiatement replongé dans l'image. Mais même si on n'a pas vu cette série, ça reste de la magnifique musique qu'on peut écouter, même si ça ne nous met pas d'image dans la tête.
C'est sûr. Là, c'est un morceau qui est un peu plus feutré, un peu plus chaleureux, on pourrait dire. Il y a d'autres morceaux qui sont plus connus aussi, comme le thème principal ou quoi, que j'ai pas forcément voulu écouter parce qu'on l'a déjà beaucoup entendu. Et puis essayer d'aller voir un peu, d'aller gratter un peu d'autres aspects de Twin Peaks, mais ouais, c'est assez agréable à écouter comme ça, ouais.
Et on peut signaler aussi qu'il y a un documentaire qui est reproposé en ce moment sur Arte qui s'appelle David Lynch, une énigme à Hollywood de Stéphane Guez. Et c'est vraiment un chouette film pour se replonger un peu dans la vie de David Lynch, dans son œuvre. Et on en parlait pendant qu'on écoutait le morceau, Victor. Ce qui est chouette, c'est ça nous montre aussi une dimension de David Lynch que peut-être si on pense à lui qu'en tant que réalisateur de film, on ne connaît pas trop, mais en fait, il avait une pratique artistique très, très poussée aussi dans d'autres domaines.
Oui, beaucoup. Très complet, en fait. Dans tous les médiums, il a mis les mains. Et puis, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui fabriquait les choses, que ce soit ses films, ses peintures, des sculptures. Enfin, beaucoup de choses qu'on retrouve dans ses films ont été fabriquées par lui ou par des équipes à lui. Mais il a une patte aussi singulière parce qu'il fabriquait vraiment les choses comme il le sentait. Et à l'image, on le voit pas trop que c'est fait de briques et de broc, mais quand justement on regarde les documentaires comme ça où l'arrière-plan est révélé, c'est assez drôle en fait, parce que c'est assez cheap en fait. Et du coup, ça marche bien. Enfin...
Oui, il a tout fait lui-même. Et par exemple, si vous voyez le film Elephant Man aussi, il a fabriqué aussi lui-même les masques un peu du personnage principal. Et il était vraiment touche à tout et très. Concret quoi dans son approche.
Et puis très très lié aussi à la musique quoi. C'est ça, enfin la musique, l'aspect sonore est énorme en fait dans son œuvre, que ce soit ses films, les premiers films d'animation et même les tous les films qu'il a fait qui l'ont fait reconnaître, le son est hyper hyper détaillé et pris en compte quoi.
Et il était aussi météorologue. Alors ça, c'est quelque chose peut-être qu'on sait moins, mais il avait pris l'habitude ces dernières années, en fait, sur sa chaîne YouTube. Il a fait ça, en gros, j'ai vérifié là tout à l'heure sur les vidéos, entre juin 2020 et décembre 2022. Il a publié chaque jour, mais littéralement chaque jour, sur sa chaîne YouTube qui s'appelle David Lynch Theater. Il publiait, un genre de bulletin météo un peu absurde et improvisé, quoi, un peu comme presque des conseils de vie. Et c'est toujours agréable d'entendre la voix de David Lynch. Donc je suis allée en rechercher un pour qu'on puisse l'écouter. Et du coup, j'en ai pris un d'un 15 janvier aussi. C'était le bulletin météo donc, de David Lynch du 15 janvier 2021.
Good morning. It's January 15, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. Here in LA, a clear morning, a slight breeze blowing, around 64 degrees Fahrenheit, 18 Celsius. Today, I was thinking about the music from the film Picnic, music called Moonglow, theme from Picnic, by, I think it's Morris Stoloff. Great music, a great scene in this film with William Holden and Kim Novak. Should be going up to around 85 toasty degrees this afternoon, around 30 Celsius. And it looks like we're going to be enjoying once again those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Everyone, have a great day.
Et voilà, merci David Lynch de nous souhaiter à tous et toutes une bonne journée. Victor, une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Bah non, bah c'est à la fois étrange, marrant et
touchant.
Et oui, et touchant, ouais, c'est ça. Mais il y a quand même un truc bizarre qui se passe, même s'il dit quelque chose d'aussi simple que de juste dire la température qu'il fait et tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche vraiment bien avec le fait que ce soit lui qui le dise, quoi.
Ouais, et aussi tous ces silences entre ces mots qui sont... On est suspendu vraiment.
Ouais, complètement.
Bah merci beaucoup Victor de nous avoir permis de nous replonger dans l'univers de David Lynch. Et avant de clore cette émission, je voulais te dire quelque chose. Est-ce que tu as entendu... Enfin non, peut-être pas, mais on est en train de relancer un chantier autour de remettre à jour un peu la playlist de Radio Bartas. Et donc j'ai lancé hier dans cette émission un grand appel à nous rejoindre, à rejoindre un collectif musical citoyen de Radio Bartas pour qu'on puisse un peu remettre à jour la playlist, ajouter des nouveaux titres, enlever d'autres morceaux. Et donc j'en profite pour te le dire à toi qui aimes la musique et le redire à vous tous, chers auditeurs, auditrices. Donc s'il y a des choses que vous voulez plus entendre sur cette radio, des morceaux qui vous irritent, envoyez-nous un message pour nous le dire. Au contraire, si vous voulez qu'on ajoute des choses qui sont pas encore diffusées ou des styles de musique sous-représentés à vos yeux, on est preneur vraiment de toutes vos contributions. Et puis si vous voulez vous engager encore plus que simplement envoyer des morceaux, vous pouvez vous manifester auprès de nous et participer à écouter un peu tout ce qu'on a dans la base, faire un tri. Enfin voilà, il y aura beaucoup de choses à faire. On lance ce grand chantier à partir de maintenant et on a créé une adresse mail dédiée à ça. Donc c'est musique@radiobartas.net. Vous êtes tous les bienvenus. C'est donc la fin de cette émission, mais restez bien branchés sur Radio Bartas à 16h. Victor veut dire quelque chose?
Non, juste par rapport à demain, on servira à manger le soir et pas le midi, à partir de 18h, parce que c'est suivi d'un concert à la pompe. Voilà.
À la pompe, donc midi moins disque sera le soir et pas le midi.
Ouais, et on continue avec des vinyles dans la nuit.
Jusqu'à tard.
Jusqu'à, on verra.
Très bien. Et d'ici là, donc à 16h sur Radio Bartas, vous retrouverez l'Oresson. La radio parlera occitan. Et demain à 12h30, vous pourrez écouter un nouveau reportage de Polémix sur le projet de Méga Canal, qui est sous le feu des critiques Méga Canal dans le nord de la France. Et à 13h demain, ce sera les annonces de fin de semaine. J'en profite pour m'excuser platement au nom de toute l'équipe de Radio Bartas parce qu'on avait complètement oublié de les enregistrer hier. Voilà, je vous laisse ici. Bonne fin de semaine à toutes et à tous et à mardi prochain.
Sait-on ce qui se cache derrière ces petites phrases que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.